Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain en compagnie de Jean-François Ladger. Bonjour Jean-François.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Alors je rappelle que tu es architecte urbaniste, que tu es administrateur et Toulousain de Toulouse et que depuis un certain nombre d'émissions, nous nous promenons dans le temps, dans les plus hautes périodes des origines de la ville de Toulouse. La dernière fois, on était au IIe siècle, on esquissait un portrait de cette très proche banlieue de Toulouse. On a vu les cimetières, on s'est préoccupé des morts et aujourd'hui, les vivants. Alors les vivants dans cette ville, est-ce qu'on a une idée de la population de Tolosa ?
Oui Sébastien, toujours grâce aux archéologues bien sûr, et aux historiens, on en a une idée, alors déjà sur le plan qualitatif, on en a une idée, on l'avait évoqué déjà pour la Tolosa gauloise, celle des Hauteurs, ou de Saint-Roch, une population très diverse des quatre coins de la Méditerranée, avec un apport gaulois, enfin celte bien sûr, et là, durant les deux premiers siècles de notre ère, donc avec la Pax Romana, cette caractéristique de très grande diversité d'horizons, on va dire, d'horizons géographiques, donc démographiques, se confirme et s'amplifie. Voilà, même si, bien sûr, l'élément celtibère est très important, puisque il est présent depuis des siècles déjà. Quantitativement, c'est beaucoup plus difficile de se faire une idée de ce que pouvait être la population d'une ville romaine, Tolosa comme ailleurs. Bien sûr, pour aucune ville romaine, nous ne disposons de sources qui diraient, voilà une inscription qui dirait, en fonction de l'approvisionnement de la ville, on sait qu'il y avait en gros 30 ans d'habitants. Ça n'existe pas.
L'Empire ne faisait pas de recensement.
Alors, en tous les cas, s'il y en avait, ouais. Il n'était pas. Il concernait les citoyens, mais il n'était pas représentatif de la totalité. Donc, en fait, les chiffres annoncés, on va y revenir pour Toulouse, ne peuvent être que des extrapolations et des croisements de sources d'informations, des sources historiques, des sources archéologiques. Ça peut être les nécropoles dont on a parlé l'autre jour, le nombre de tombes qui ont été trouvées, moduler le fait qu'on n'est pas sûr d'avoir la totalité de l'emprise des nécropoles, puisqu'on ne peut pas tout démolir pour tout savoir. Ça peut être d'autres paramètres. Bref, c'est par croisement qu'on peut quand même essayer de cerner à peu près ce que pouvait être la population urbaine. Alors, dans l'histoire de Toulouse, parue en 1974, sous la direction du grand historien Philippe Wolff, celui-ci proposait un ordre de grandeur de 20 ou 25 000 habitants pour la seule ville intramuros, c'est-à-dire pour nos 94 hectares enfermés dans les remparts. Il faut dire qu'en 1974, on n'avait pas encore trop idée de ce que pouvait être l'habitat hors les murs, dont nous avons parlé la dernière fois. Aujourd'hui, la zone d'occupation est mieux connue, la zone d'occupation de l'habitat, donc intramuros et extramuros. La structure de l'habitat est aussi un peu mieux connue. On sait que la plupart de l'habitat ne dépassait pas R plus 1. J'en avais parlé peut-être il y a deux émissions. Donc il ne faut pas imaginer des insulae, c'est-à-dire des immeubles de grande hauteur comme il y en avait à Rome ou à Ostie. Dans les villes gallo-romaines, c'est valable à Toulouse, à Tolosa, comme dans toutes les villes gallo-romaines, il ne faut pas imaginer cette grande hauteur d'habitat. Donc tout ça fait que, par rapport à l'ordre de grandeur qui avait été proposé par Philippe Wolff en 1974, on pourrait se dire que cet ordre de grandeur serait un peu surestimé, en tous les cas pour la ville intramuros, dont on a vu qu'en fin de compte, elle n'atteignait pas les remparts. Il y avait des espaces vacants. Mais compensé par la population à l'extérieur. Du coup, si on peut adopter 20 000 habitants comme un repère.
Alors 20 000, on est au IIe siècle.
Premier, deuxième siècle.
Et 20 000 habitants. Et en comparaison avec d'autres lieux, est-ce qu'on peut dire que c'est une grande ville, une ville moyenne ?
Alors, ça n'est pas, elle ne fait pas partie, je dirais, des plus grandes villes. Mais alors, c'est pas une des plus grandes, mais c'est une grande ville. C'est-à-dire que si on compare avec Lyon, la Lugdunum, jusqu'aux années 70, il y avait des estimations qui, dès l'époque, étaient un petit peu contredites par... Enfin, il y avait un débat sur... voilà, c'est-à-dire que certains annonçaient dans les 80 000 habitants, voire plus. Dès les années 60-70, certains disaient non, c'est trop. Justement, on regarde la structure de l'habitat. À Lyon, on a le plateau de Fourvière, hein, donc, qui était dans les murs, hein, l'intramuros, mais il y avait également ce qu'on pourrait appeler des faubourgs, comme on a vu pour Tolosa, à la Croix-Rousse et puis sur le confluent, des quartiers d'artisans, de commerçants, etc. Et aujourd'hui, les estimations sont plutôt ramenées par les chercheurs à autour de 40 000. Donc vous voyez, on est du simple au double par rapport à un repère pour Tolosa. C'est pareil pour Narbonne, les premières estimations étaient très élevées. Aujourd'hui, les estimations sont plutôt ramenées à un ordre de grandeur de peut-être autour de 35 000, ce qui peut être aussi le cas de Reims. D'accord. Là, on est vraiment sur les très grandes villes. Après, pour des villes un peu plus grandes que pour Tolosa ou que pour Bordeaux, on a des villes comme Nîmes, Autun ou Vienne, qui étaient peut-être autour de 25-30 000. Voilà. On peut dire qu'avec 20 000 habitants, Toulouse, Bordeaux, et aussi sans doute des villes comme Marseille et Arles, devaient être un peu à la fin du peloton de tête des grandes villes de la Gaule romaine. Ensuite, on a plutôt des villes qui sont autour de 10 000 habitants, les chefs-lieux de Kiwitas, hein, ce qu'on vous rappelait, c'est ces territoires qu'on pourrait comparer à nos départements actuels. La moyenne est plutôt à 10 000, voire même en dessous. Autour, en Gascogne, par exemple, enfin dans l'Aquitaine de l'époque, on était sans doute sur des chefs-lieux de cité. On était sur, j'aime pas cette expression, on voyait plutôt sans doute des villes autour de entre 5 et 10 000 personnes. Oui. Donc on est, voilà, une ville quand même d'une certaine importance. Après, il faut avoir en tête que ces villes gallo-romaines, dont Tolosa, ont une population très très en dessous de beaucoup de villes orientales, de la part orientale de l'Empire.
Oui.
Enfin, on ne parle pas encore au 1er, 2e siècle de part orientale. C'est une expression qui viendra plus tard. Mais en tous les cas, les villes, on va dire, du monde grec, ont une antériorité qui fait que d'un point de vue démographique, elles ont attiré et elles ont prospéré au point, là, pour le coup, d'être sûres.
Lesquelles, par exemple?
Des villes comme Alexandrie, oui, ou Antioche. Oui. Voilà. Sans parler de Rome, là, pour le coup... On n'est pas du tout dans la même catégorie, c'est-à-dire que même si il faut toutes les précautions oratoires, donc je rappelais tout à l'heure pour se dire bon, qu'on n'a pas une vérité certaine, mais il y a quand même un ordre de grandeur qui fait consensus sur une ville sous la Pax Romana d'un million d'habitants. Mmh. Ouais. Et les grandes villes orientales étaient peut-être sur des périmètres tellement vastes qu'ils pouvaient accueillir peut-être 200-300 000 habitants. Donc vous voyez, quand on est à Lyon ou à Narbonne, on est quand même très très loin de ces villes-là. Alors pour parler de Narbonne, juste une petite chose, on avait évoqué la fois précédente les dernières découvertes à Nîmes, donc avec des tombes au bord de voies romaines. À Narbonne, j'en profite aussi pour dire que quelques jours seulement après l'enregistrement de l'émission où nous avons évoqué les remparts, j'avais cité Narbonne comme ville ouverte, ville sans remparts. Tout simplement parce que ça faisait décennies que les chercheurs commençaient à mettre en doute l'existence d'un rempart du Haut Empire, hein, un rempart augustéen. Et finalement, on se disait, on ne trouve rien, donc Narbonne, sous Auguste, était une ville ouverte. Et deux jours après notre enregistrement, l'INRAP a publié un rapport de recherche disant que lors de fouilles préventives avait été découvert un pan de courtine, c'est-à-dire un pan de rempart d'une trentaine de mètres, et une structure imposante qui ressemble tout à fait à une tour. Et donc, il devrait complètement infirmer ce que je disais. Et la conclusion sur laquelle les chercheurs étaient, de se dire, finalement, Narbonne selon l'hypothèse qui avait été faite par certains chercheurs qui disaient non, à Narbonne, il devait y avoir un rempart, là, ça y est, l'INRAP, au travers d'une fouille, a démontré, après des décennies de recherche, que Narbonne était bel et bien une ville remparée, avec un rempart donc, dont maintenant un lieu a été trouvé. Et c'était intéressant, je veux dire, en termes de méthode, parce que ça doit nous inciter toujours à la prudence. On sait que la recherche avance pas à pas. Et vous voyez, en l'espace de 2 jours, ce que j'ai dit était une bêtise. Parce que, tout simplement, 2 jours après, il y a eu un rapport de fouille qui est venu dire,
En général, ce sont des chantiers qui suscitent les fouilles et donc qui suscitent une progression de la connaissance.
C'est ça. Ouais. Et pour Narbonne, ce qui est d'autant plus intéressant, je trouve, c'est que ceux qui avaient fait l'hypothèse sur un tracé de rempart l'avaient fait, comme dans beaucoup de villes réputées ouvertes, sur la base de l'emprise des nécropoles.
Oui.
C'est-à-dire que comme je vous expliquais que les nécropoles devaient être en dehors du pomerium, en connaissant l'emplacement des nécropoles, on pouvait à peu près se douter de, alors pas exactement, mais en gros, quelle était la limite de la ville sacrée où les morts ne devaient pas être enterrés. Et donc ils avaient fait une hypothèse, une sorte de bande de terrain, en disant, entre ce qu'on a trouvé du centre monumental et les nécropoles, il y a cette zone-là qui entoure la ville, et si un jour on retrouve le rempart, oui, c'est dans cette zone-là qu'on va la trouver, et à Narbonne, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que la fouille préventive qui a été réalisée est exactement sur une parcelle qui avait été identifiée sur un hypothétique tracé de pomerium. Ce qui veut dire que si de nouvelles fouilles préventives ont lieu à Narbonne, toujours sur ce périmètre du tracé, peut-être que petit à petit, on va trouver des éléments qui vont permettre, comme ça a eu lieu, c'était le cas pour Tolosa, de découvrir le tracé du rempart antique de Narbonne.
Très bien, souhaitons que la recherche et la connaissance continuent à progresser. Donc j'invite les auditeurs à aller au musée Saint-Raymond pour avoir quelques éléments de cette archéologie de la ville romaine.
Beaucoup.
Et puis au musée Narbovia pour avoir une idée de la monumentalité de la Narbonne romaine. Merci et puis à la semaine prochaine, Jean-François.
Au revoir à tous, merci Sébastien.